Chapitre 13. En l'espace de 15 ans, Enrique de Soto avait réalisé des affaires particulièrement juteuses depuis son ancien ranch de chevaux des environs de Nogales, la ville frontalière d'Arizona collée à sa jumelle mexicaine, également baptisée Nogales. Enrique vendait divers produits au marché noir, mais sa filière la plus rentable était celle des véhicules volés aux États-Unis, entièrement désossés et refaits au Mexique avec des moteurs gonflés, capables de semer n'importe quelle voiture de police. Et si Enrique ne s'était pas lancé dans le trafic de drogue, c'était uniquement parce qu'il jugeait trop sévères les peines encourues. Cela ne l'empêchait pas d'étaler sa fierté d'avoir, par le truchement des acheteurs de ces voitures volées, contribué à l'importation de tonnes et de tonnes de cocaïne, d'héroïne, de méthamphétamine et autres substances appréciées du grand public américain dont les privaient leurs dirigeants puritains. Enrique avait aménagé dans ses véhicules des cachettes, tapissées de produits destinés à égarer les recherches des brigades canines les plus sophistiquées, dont il aurait aimé pouvoir déposer les brevets. S'il ne touchait pas à la drogue, Enrique importait et vendait une grande variété d'armes et d'explosifs. Des armes de poing aussi bien que des fusils automatiques ou encore des pains de C4. Il pratiquait également à grande échelle la traite des êtres humains, infiltrant sur le territoire américain aussi bien des migrants que des membres du gang MS-13 désireux d'établir des têtes de pont dans les grandes villes du pays, des terroristes du Moyen-Orient et d'ailleurs, ou encore de jolies filles destinées à l'esclavage sexuel. Avec 11 employés au Mexique et 7 aux États-Unis, Enrique se trouvait à la tête d'une véritable PME, mais ses coûts de fonctionnement étaient limités en comparaison de ceux de ses collègues du secteur privé puisqu'il ne payait pas d'impôts. En outre, il économisait des centaines d'heures de labeur en refusant de s'embarrasser de la paperasserie bureaucratique habituelle, ce qui lui laissait tout le loisir de jouer aux jeux vidéo, de lire des romans pornographiques, d'honorer sa petite amie du moment ou encore d'inventer des concepts de séries télé. Il était convaincu que s'il cessait un jour ses activités courantes, il connaîtrait une réussite fulgurante dans l'univers de la télévision. Il n'en doutait pas un instant. À vrai dire, Enrique ne doutait de rien et son assurance confinait à l'immortalité. Sa dernière idée de série lui était venue lorsqu'il s'était aperçu que le nombre de ses employés américains était inférieur à celui des cadavres enfouis anonymement sur son ranch, pour la plupart des abrutis qu'il avait trahis ou dérangés pour une raison quelconque. En tout, il en dénombrait 14, sans compter les 4 crétins dévorés par ses sangliers et dont il n'était rien resté, ces charmantes petites bêtes appréciant autant les os que la viande. Il avait tout d'abord pensé à une série dans l'esprit de The Walking Dead, mais son inspiration ne l'avait pas conduit au-delà de 6 épisodes d'une heure. Il avait alors envisagé un mélange de The Walking Dead et de Polar à la Elmore Leonard. Son héros, Ricky D, était un trafiquant de voitures et de chair humaine qui avait recours au vaudou pour assurer sa suprématie sur tous ceux qu'il avait tués, et dont il se servait pour buter ses ennemis et assurer une sécurité maximale dans l'ancien ranch de chevaux qui lui servait de QG. À la télé comme dans la vraie vie, Enrique de Soto était un chaud partisan des mesures de sécurité à tous les niveaux. Il s'appuyait notamment sur les informateurs qu'il soudoyait au sein de la police locale et de la police d'État. Si trop de flics à son goût continuaient de croire aux bonnes vieilles valeurs américaines de vérité et de justice, oubliant que le monde de Clark Kent avait expiré depuis belle lurette, certains avaient clairement compris dans quel sens avait tourné le vent. Enrique se trouvait dans son bureau ce samedi après-midi-là, dans la grange la plus proche de la route où était stockée la camelote assurant sa couverture officielle de brocanteur. Il déjeunait tout en visionnant un film de 1990 intitulé « Voodoo Dawn », dont les scènes de sexe et de violence, justifiant une interdiction au moins de 18 ans, était bien trop insipide à ses yeux. Il fut dérangé une première fois par un appel émanant d'un contact dans la police routière d'Arizona. Son informateur lui signala que 2 huiles du FBI avaient réclamé une escorte pour rallier au plus vite Nogales depuis Casagrande. L'adresse qu'ils avaient fournie était celle d'Enrique. Ce dernier récupéra dans un tiroir de son bureau un Brugger & Tomette TP9 équipé d'un chargeur de 30 balles, se leva précipitamment et s'approcha du thermostat installé à gauche de la porte. Il venait d'en retirer le capot en plastique lorsque son téléphone sonna à nouveau. Un indique travaillant pour le shérif du comté tenait à l'informer que le service des douanes et de la protection des frontières s'apprêtait à faire un raid sur sa propriété. Ils avaient réclamé l'assistance du shérif en leur demandant d'établir des barrages tout autour du ranch. « Il vous reste à peine 8 minutes !» insista l'indique. Enrique s'empressa de régler le thermostat sur 25 degrés et replaça le capot. 8 minutes. Il traversait la grange pleine de bric-à-brac lorsqu'il comprit. Tout ça était la faute de Jane Hawk et de son copain Reincar. D'abord, comment pouvait-on porter un nom pareil? Un nom étranger, sans aucun doute. Pas comme DeSoto. DeSoto avait même été une marque de voiture bien américaine entre 1928 et 1960. Enrique voyait mal le mot Reincar orner un jour une carrosserie. Enrique n'avait rien à voir avec le créateur des voitures DeSoto, ce qui ne l'empêchait d'être fier de porter un nom américain. Il sortit de la grange par une porte discrète, invisible depuis la route, au cas où il aurait été placé sous surveillance. Il veilla ensuite à marcher d'un pas tranquille sur le petit chemin reliant entre elles les 5 granges du ranch, afin de ne pas attirer l'attention sur lui. La première fois que Hawk était venu lui acheter une bagnole, il aurait été mieux avisé de demander à ses gars de lui coller une décharge de taser, de la ligoter et de la monter dans son appartement du premier étage de la 3e grange. Il aurait pu s'amuser tranquillement avec elle, histoire de lui apprendre les bonnes manières. À ceci près qu'elle était poursuivie par les fédéraux et qu'Enrique avait trop bon cœur pour ne pas lui donner sa chance. La gentillesse avait toujours été son point faible. Les autres prenaient ça pour de la faiblesse, alors il était obligé de les tuer. La 2e et la 3e grange servaient à entreposer des pièces détachées, alors que la 4e servait à la fabrication des fausses plaques minéralogiques et autres bricoles du même tonneau. Quant à la 5e, elle abritait les véhicules à leur retour du Mexique, prêts à être adaptés aux besoins de la clientèle. C'est là que travaillaient actuellement ces 7 employés américains. C'était aussi là que le Southwind commandé par Vikram Reincar avait été modifié sous la surveillance de son cousin Arshad. Arshad, tu parles d'un prénom. Enrique aurait dû abattre ce con et annuler le deal. Il aurait dû tuer les 5 membres du clan Reincar la première fois qu'ils étaient venus le trouver. Mais voilà, il avait un faible pour Jane Hawk, que Vikram Reincar prétendait vouloir aider. Et voilà le résultat. Comme quoi la gentillesse et le désir faisaient mauvais ménage. Le rugissement de plusieurs outils électriques accueillit Enrique à son arrivée, ce qui l'obligea à crier pour que ses hommes puissent l'entendre. Il grimaça intérieurement en s'apercevant qu'il ressemblait à l'un de ces moustiques terrifiés que l'on voit hurler dans la pub d'un célèbre produit anti-moustique. « Raid !» s'écria-t-il.